Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel et puis le débat. Faut-il vraiment regretter le sens de la nuance? On peut tous en faire l'expérience et se reconnaître dans cette phrase. Nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir tout le temps raison. Je ferme les guillemets. Ces mots sont d'Albert Camus, cité par l'essayiste, le directeur du Monde des Livres, Jean Birnbaum. Il publie « Le courage de la nuance » aux éditions du Seuil, un livre où il fait ce constat amer. Au-delà même de Twitter ou de Facebook, le champ intellectuel médiatique se confond avec le champ de bataille où tous les coups sont permis. Partout, de féroces prêcheurs préfèrent attiser les haines plutôt qu'éclairer les esprits. Fin de citation. Mais quoi de nouveau sous le soleil? Et peut-on vraiment rêver d'un monde libéré de la brutalisation du débat public? On en parlera avec Jean Birnbaum qui nous rejoindra dans une vingtaine de minutes. Il sera l'invité du grand face-à-face. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Confinement, acte 3, jour 1. Est-ce que vous avez compris les règles d'ailleurs des attestations, deux pages et tellement de cases à cocher, Natacha?
Je pense que nous avons de nouveau atteint un sommet dans cet art très français de la bureaucratie. Et je pense que, bon, c'est un an après, on finit par en rire, mais de fait, on comprend bien la volonté du gouvernement d'essayer de construire le plus finement possible ce troisième confinement pour justement éviter les dégâts collatéraux.
Je vous interromps, Natacha. Ne dites pas confinement.
C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle quelle de celles que nous avions mises en place en mars et en novembre dernier, car depuis le début de l'épidémie, il y a exactement un an, le temps a passé, la crise a duré, mais nous avons appris.
Jean Castex, c'était jeudi soir, alors je disais qu'il ne fallait pas dire confinement, mais c'est la seule occurrence au cours de sa conférence de presse où il a employé le terme et le président de la République disait ensuite que nous ne vivions pas une situation de confinement. Ça vous fait rire, Natacha?
Oui. Oui, ça, je pense que ça nous fait rire tous les deux, les jeux sur les mots. Après, le reste est plus complexe et la question est de savoir si ces nouvelles mesures vont permettre réellement, dans leur finesse, puisqu'on a bien compris que le gouvernement essayait d'adapter à la situation le plus possible en continuant sur son idée que je trouve légitime, d'essayer au maximum de faire vivre l'économie. Mais est-ce que, du coup, ça servira à quelque chose? Il y a par exemple, c'est vrai, des absurdités. Je veux dire, on a déjà ici parlé depuis le début de cette crise du cas des libraires, des disquaires. Mais à partir du moment où on laisse ouvert les libraires pour les meilleures raisons du monde et parce que les livres sont indispensables, etc., il devient très compliqué de ne pas donner d'autres dérogations parce que, de fait, ça ne peut apparaître que comme une injustice. Et donc, on entre dans le vaste domaine des dérogations et des dérogations aux dérogations.
Gilles Finkelstein.
Oui, je pense qu'il est légitime dès lors qu'il y a des nouvelles connaissances, que la situation évolue, qu'il y ait des nouvelles réponses et donc chaque confinement ait ses caractéristiques particulières. Mais je dois avouer, même si c'est pas très satisfaisant pour l'esprit, et en tout cas pour l'acuité des débats, une très profonde circonspection après ce troisième confinement. C'est vrai sur le mot, parce que quand on essaye sincèrement de se demander est-ce que c'est un confinement ou pas, on se dit à la fois non, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a annoncé, or c'est Emmanuel Macron qui annonce le confinement, et donc peut-être en tout cas c'est qu'il ne veut pas que l'on pense que c'est un confinement, non parce que c'est pas la France entière, il y a malgré tout deux tiers de la France qui ne vit pas dans le confinement, non parce qu'on est pas confiné à l'intérieur. On est dans cette figure qui est un peu originale d'être
confirmé à l'extérieur.
Voilà. Mais oui, parce que il y a quand même l'importance à la fois économique, symbolique de l'Île-de-France. Le retour des attestations et des attestations pour le moins baroque, puisqu'il n'y a plus de limitation de temps. Le retour, on l'a vu hier, de ces gares surchargées avec les Franciliens qui quittent leur région. Donc, d'une certaine manière, on peut se dire que c'est une question vaine. Est-ce que c'est confinement ou pas confinement? Mais ce qui est significatif, c'est ce sentiment que nous sommes nombreux à avoir d'être dans une espèce d'entre-deux. C'est un peu la même chose si on se pose la question de savoir est-ce que c'est un échec pour Emmanuel Macron.
Oui.
Il a pris, on le sait, il a pris un risque fin janvier en ne suivant pas ce que la majorité des scientifiques préconisaient. Et on peut se dire à la fois il a eu raison parce que les prévisions qui étaient faites alors étaient d'un pessimisme qui était excessif et donc malgré tout on a gagné un certain nombre de semaines. Et on peut se dire aussi il a eu tort parce que la situation s'est dégradée, lentement certes, mais elle s'est dégradée au point que aujourd'hui, il était intenable de ne pas prendre de mesures supplémentaires. Et donc, circonscription à nouveau. Et enfin, circonspection. Et Natacha l'a dit sur l'élément le plus important, c'est-à-dire sur l'efficacité de ce dispositif. Parce que lorsqu'il y avait une progression exponentielle du virus,
oui,
il y a eu un coup de frein qui était brutal et un effet qui était spectaculaire, la courbe était cassé. Là, on a une progression qui est linéaire, qui n'est plus exponentielle. On a un coup de frein qui est modéré. Et donc, on a un effet qui est extrêmement aléatoire. En fait, tout cela va dépendre de la manière dont nous, Français, allons nous saisir de cette nouvelle situation.
Natacha.
Je pense qu'on a compris là aussi que la stratégie d'Emmanuel Macron, que certains jugent scandaleuse, d'autres bonne, d'autres légitime, cette stratégie devait fonctionner sur deux jambes, c'est-à-dire maintenir une circulation du virus qui évite la saturation des hôpitaux pendant qu'on montait en puissance sur la vaccination. L'échec, si échec il y a, vient de là. De la deuxième jambe, même si on a bien compris que toute une part des scientifiques considèrent que, quoi qu'il arrive, il fallait confiner beaucoup plus tôt, mais les mêmes voulaient confiner au mois de décembre et nous expliquaient que ce serait l'apocalypse en janvier. Donc la tentative d'équilibre est tout à fait justifiée, mais elle est justifiée quand on a les moyens de faire le reste, c'est-à-dire d'avancer sur la vaccination, d'organiser un petit peu mieux que ça ce qui pêche toujours, qui est le traçage des malades, leur isolement, etc., etc. Et je pense que le problème est qu'on a l'impression de n'avoir pas appris depuis un an. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'a toujours pas les instruments pour mener la politique qu'il voudrait mener, et il se retrouve obligé lui-même d'avouer que c'est le virus actuellement qui est devenu maître du temps. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de confinement ou non confinement. On n'est pas dans une solution binaire. On est dans un travail beaucoup plus complexe. Et un seul point, mais on va y venir à cette question de la vaccination, un point
on
essentiel.
On va en parler, oui.
On reconfine l'Île-de-France. L'Île-de-France est une des régions de France qui, proportionnellement à sa population, a le moins vacciné. Pourquoi ? C'est une aberration dans la mesure où c'est la région la plus peuplée avec des densités de population fortes. C'est véritablement un mystère total que cette incurie de ce point de vue-là. Et il ne faut pas s'étonner ensuite que les mesures, en effet, de couvre-feu, etc., n'aient pas été suffisantes pour enrayer la circulation des variants, des nouveaux variants.
Gilles.
Oui, juste deux mots. C'est pas une, je crois pas que le retard de l'Île-de-France soit à ce point une aberration, parce que la raison principale pour laquelle l'Île-de-France est en retard est une raison démographique. C'est que c'est la région qui est la plus jeune et donc dans laquelle la proportion de personnes en capacité d'être vaccinée est la moins importante. Deuxièmement, je suis pas convaincu non plus, mais ça fait un moment qu'on a cette discussion avec Natacha sur cette idée d'une course de vitesse entre le virus et la vaccination, tout simplement parce que cette course de vitesse est perdue d'avance dans la mesure où on voyait les commandes de vaccins, de doses qui devaient arriver et la progression du virus. Et donc ça, c'est comme si je fais une course avec Usain Bolt. Il y a une course, mais on sait qui va gagner.
Mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. Dans d'autres pays, la campagne de vaccination l'a emporté et est allée plus vite que la progression du virus.
Oui, mais on sait depuis maintenant des mois et des mois que ça ne sera pas le cas en Europe.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire. Il s'agit d'un vaccin sûr et efficace. Ses avantages dans la protection des personnes contre la COVID-19, avec les risques associés de décès et d'hospitalisation, l'emportent sur les risques possibles.
C'était la directrice de l'Agence européenne du médicament, Emer Cook, qui se prononçait jeudi en faveur de la reprise de la campagne de vaccination avec le produit du laboratoire britannico-suédois AstraZeneca. Avec cet argument, les bénéfices l'emportent sur les risques. Et l'on a vu en France le Premier ministre Jean Castex donner l'exemple en se faisant vacciner avec ce produit. Gilles, comment expliquer ce feuilleton invraisemblable autour de ce vaccin-là, AstraZeneca, feuilleton donc qu'on a suivi pendant toute la semaine de manière assez étonnée?
Eh bien, écoutez, moi je ne trouve pas ce feuilleton invraisemblable.
Non?
Du tout. J'ai en réalité pas grand-chose à opposer aux décisions qui ont été prises. Je trouve que la décision politique de suspension de la vaccination était irrépressible et inévitable. Lorsque vous avez, c'est une sorte de mouvement de foule, je ne sais pas qui a utilisé cette expression, qui s'est produit en Europe, où les pays, les uns après les autres, ont suspendu la vaccination. Et d'expérience, je peux dire qu'il n'y a pas un pouvoir politique qui peut résister à un mouvement d'une telle ampleur. Et qu'en réalité, le président de la République a moins suivi les autres, et notamment moins suivi l'Allemagne, qu'il a précédé l'opinion. De fait, 70% des Français ont considéré que cette décision était une prudence qui était légitime. De la même manière, je crois que je n'ai pas grand-chose à opposer aux décisions qui ont été prises par les autorités sanitaires, autorités indépendantes, européennes et nationales. Ça a permis, autant qu'il est possible avec les connaissances dont on dispose, une clarification. L'élément très important qu'il n'y a pas de lien entre les décès et les thromboses classiques, le retour de la vaccination pour les plus de 55 ans et puis la poursuite des investigations sur les cas extrêmement peu nombreux mais très problématiques puisqu'il y a eu des morts sur lesquels on ne sait pas s'il y a un lien de causalité ou s'il y a d'autres facteurs de risque. Donc tout ça me semble s'être passé de la manière dont ça doit se passer. La question après qu'on peut se poser et dont on va débattre, c'est qu'est-ce que ça veut dire sur la campagne de vaccination, qu'est-ce que ça veut dire sur le pouvoir politique. Mais oui, ce qui s'est passé cette semaine ne me semble pas invraisemblable du tout.
Natacha Polony.
Pour ma part, cela me semble invraisemblable dans la mesure où le calendrier est incompréhensible. C'est-à-dire que des pouvoirs politiques soient contraints de prendre ces mesures-là sous l'effet de l'opinion, sans doute. Cela dit, cette opinion, elle réagit à la mise en avant de quelques cas de thrombose qui, certes, doivent être vérifiés et de la façon la plus rigoureuse qui soit, nous en sommes tous d'accord. Le problème est de savoir si on mesure réellement et si la communication qui est faite autour de cela met en avant ce fameux facteur bénéfice-risque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on semble en Europe, dans ce calcul justement et dans cette analyse de ce qu'est le vaccin AstraZeneca, on semble écarter totalement l'expérience britannique. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi la campagne massive en Grande-Bretagne avec ce vaccin ne laisse pas penser, ne permet pas de conclure dans la mesure où il y a un contrôle sanitaire qui me semble assez important en Grande-Bretagne, au moins aussi important qu'en Europe, pourquoi on n'en tient pas compte et que on stoppe la vaccination. Il faut observer que ce sont les pays scandinaves qui les premiers ont stoppé la vaccination, qui sont des pays qui sont nettement moins touchés par le coronavirus et qui n'ont pas le même rapport que des pays comme la France, justement, à cette question de la précaution et du soin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'Allemagne et la France s'étaient mis d'accord pour attendre, justement, avant toute décision, le retour de l'Agence européenne du médicament. Je veux dire, soit on prend des précautions longtemps à l'avance en considérant qu'il y a un doute, soit on attend le retour de l'AME. Là, 2 jours avant, l'Allemagne décide, sans avoir respecté son accord avec la France, décide unilatéralement de suspendre. Ces 2 jours sont incompréhensibles. Je veux dire, soit il fallait le faire avant, soit on attend la décision au lieu de prendre une décision unilatérale qui va provoquer forcément un mouvement de panique ou en tout cas de défiance vis-à-vis de ce vaccin. Donc je pense que ça va avoir des conséquences sur la perception que les gens peuvent avoir de la vaccination, et ça me semble assez dommageable. Je crois qu'il y avait d'autres moyens de gérer ce problème-là, qui en effet mérite toute l'attention. Bon, il ne s'agit pas de balayer d'un revers de la main les risques que peuvent présenter un vaccin.
Oui. Gilles, justement, vous voulez revenir sur la campagne de vaccination et ce que ça dit de la décision politique, cet épisode AstraZeneca?
Oui, alors je partage un point et je le prolonge même de ce que disait Natacha sur l'absence de coordination de la décision en Europe. C'est vrai en amont de la décision de suspension, elle vient de le dire, c'est vrai en aval, après la décision de l'autorité européenne, on voit que les décisions nationales se font en ordre totalement dispersé. Vous avez des pays qui n'ont pas encore réagi, des pays qui ont repris, des pays qui ont repris partiellement comme la France, des pays qui n'ont pas repris encore, donc ça, cette coordination-là, elle ne va pas. La question, l'autre question, c'est ce que vous évoquez, les effets de cette semaine, après qu'on la juge invraisemblable ou pas, sur la vaccination elle-même. On a dit à quel point déjà cette campagne était difficile en France. La question, c'est est-ce que ce qui s'est passé va rassurer, parce qu'on a fait preuve de prudence, lorsqu'il y avait un doute, on s'est arrêté, on a demandé aux autorités scientifiques et on reprend. Donc est-ce que ça va rassurer ou est-ce que cela va inquiéter, et notamment sur ce vaccin AstraZeneca qui, depuis le début, est plus problématique que les autres, puisque dans cette balance bénéfice-risque qu'évoquait Natacha Polony, il y a eu au départ des questions sur le bénéfice, puisqu'il n'était pas ouvert aux plus de 65 ans, oui. Et aujourd'hui, il y a des questions sur le risque, puisqu'il n'est, pour l'instant, il y a des investigations supplémentaires sur les moins de 55 ans. Et donc, tout ça, évidemment, fait que, en termes de lisibilité, c'est compliqué. La confiance dans ce vaccin-là est aujourd'hui beaucoup plus faible. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir une sorte de benchmark où chacun va vouloir aller faire son propre marché et choisir son vaccin.
On va comparer comme dans un téléachat où l'on compare les produits les uns avec les autres. Un mot, Natacha?
Oui, un mot pour pousser cette question du rapport entre le bénéfice et le risque. Je pense que c'est une question majeure. Et qu'en fait, ce que nous raconte cette histoire, c'est l'évolution, et on en revient toujours là dans toutes nos discussions, dans tous nos débats, l'évolution du rapport entre l'individuel et le collectif dans nos sociétés. C'est-à-dire que là, cet épisode, le risque vaccinal, nous met en face, à titre individuel, en face de ce questionnement, est-ce que le risque que je prends vaut pour préserver la collectivité? Parce que c'est le calcul que font la plupart des gens. Et donc, s'ils perçoivent que se faire vacciner est risqué, ils ne le feront pas parce qu'il leur semble que leur risque d'attraper cette maladie et de développer une forme rare est finalement dilué par rapport au risque qu'ils prennent en choisissant, en utilisant leur libre arbitre pour choisir véritablement d'aller se faire vacciner. Cette question-là, nous devons la penser. Pourquoi ? Parce qu'elle se pose dans un nombre incalculable de domaines. Alors évidemment, en termes de vaccination, on se dit que la vaccination et l'éradication de la variole n'auraient jamais été possibles aujourd'hui. Le vaccin était beaucoup plus risqué. Mais dans d'autres domaines, ce rapport individuel-collectif bloque les sociétés démocratiques occidentales, et je pense qu'il faut il faut aller au fond de ce sujet-là.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Nous sommes le seul pays au monde qui a une centrale nucléaire en amont du fleuve qui dessert la capitale. Un accident et c'est fini. Or, nous allons à l'accident pour plein de raisons. Donc je dis, on renouvelle tout, vous me prenez sur la date. Alors je reprends à peu près le scénario négawatt, donc ça m'amène à normalement à 2030. Mais moi je trouve que c'est trop long tout ça.
Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, député des Bouches-du-Rhône, il était l'invité de la matinale de France Inter lundi matin. Pourquoi est-ce que vous vouliez revenir, Gilles Finkelstein, sur ces mots de Jean-Luc Mélenchon qui met en avant la question écologique et qui, dans cette pré-pré-campagne présidentielle, s'intéresse à la question du nucléaire qui sera, à n'en pas douter, une question qui sera abordée par les différents candidats?
Écoutez, à n'en pas douter, je n'en sais rien. Et au moins, il faut savoir gré à Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait entrer la question de l'énergie dans le débat politique, dans le débat public, parce que c'est un débat qui est absolument majeur. Et on peut même partager la perspective d'une réflexion sur la fin du nucléaire pour un certain nombre de raisons. J'ai été en revanche extrêmement surpris lorsque j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit 0% de nucléaire en 2030, voire avant 2030, et une réduction de notre consommation d'énergie. J'ai été surpris au début et après avoir travaillé un peu plus, sans être un spécialiste de l'énergie, je suis encore plus surpris aujourd'hui et même en profond désaccord. Il y a un premier désaccord très important qui est que cette priorité-là me paraît mal ciblée. 0%, une baisse de l'électricité. Pourquoi ? Le défi qu'on doit affronter, c'est la réduction de notre production de gaz à effet de serre.
Oui.
Et donc, il faut se concentrer sur la diminution des 2/3 de notre consommation d'énergie qui émettent des gaz à effet de serre, et pas sur la répartition entre les énergies non renouvelables et le nucléaire, du tiers qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le premier désaccord. Ce que l'on a devant nous, chaque Français le voit, ça, c'est l'électrification de nos usages. Quand on réfléchit au changement de notre chaudière à gaz pour de l'électricité, c'est de l'électrification. Quand on change notre voiture pour une voiture électrique, c'est de l'électrification.
Et donc, quand on a notre invité, par exemple, Jean Birnbaum, qui arrive en vélo électrique avec sa batterie, il nous rejoint en studio, c'est aussi de l'électrification.
Eh bien voilà. Et donc, on doit avoir à la fois une baisse de la consommation d'énergie et une augmentation de la consommation d'électricité. Et puis le second désaccord, et je termine par là, c'est que l'objectif et le calendrier qu'avance Jean-Luc Mélenchon me semblent absolument pas sérieux. Soit on a 100, on dit 0% de nucléaire. Si vous avez 0% de nucléaire, il faut bien qu'il y ait autre chose. Donc soit vous avez 100% d'énergie non renouvelable. Si vous avez 100% d'énergie non renouvelable, il y a toutes les études ont été faites là-dessus, il y a un problème technique, là aussi, que tout le monde comprend, c'est lorsque vous avez de l'éolien ou lorsque vous avez du solaire, eh bien, c'est une énergie intermittente et donc il y a un problème de stabilité et un problème d'acceptabilité sociale. Là aussi, chacun le voit quand on fait des éoliennes, quand on fait des fermes solaires, on voit de plus en plus des mobilisations contre. Si on passe à 100%, c'est l'équivalent d'un département français en ferme solaire. C'est 50 parcs éoliens en mer. On a beaucoup de mal à en faire un depuis plusieurs années. Donc tout ça ne me semble pas sérieux. Et si on ne fait pas 100%, je termine vraiment par là,
oui.
Si on ne fait pas 100% d'énergie non renouvelable, ça veut dire qu'on fait du gaz. Le gaz, c'est à la fois moins bon d'un point de vue environnemental, et ça nous met en dépendance par rapport aux pays qui le produisent, et notamment par rapport à la Russie. Donc je trouve qu'il y a là un débat qu'il faudra prolonger avec Jean-Luc Mélenchon.
Une réaction, Natacha ?
Une réaction rapide, je souscris à ce que vient de dire Gilles, à ceci près qu'il employait le terme énergie non renouvelable pour énergie renouvelable.
Oui, pardon, donc, ENR, excusez-moi, oui, bien sûr, monsieur.
Précisons-le pour les auditeurs.
Pour les auditeurs.
Mais à part ça, je souscris à cela et j'y ajoute un point qui est le fait que ce qui rend dangereux potentiellement notre parc nucléaire, c'est l'abandon progressif de la formation, des compétences, de la maintenance. Pourquoi ? Justement parce qu'il y a une diabolisation de cette énergie nucléaire. Elle pose un problème, on en a déjà parlé la semaine dernière, un problème majeur, etc. Après, il y a des projets, notamment, je l'avais cité, le projet Astrid, de recyclage des déchets et d'utilisation qui éviterait la dépendance en matière de combustible.
Oui.
Ce qui est essentiel parce que si nous voulons avoir une énergie qui ne dépend pas de l'étranger, une indépendance énergétique, et c'est un sujet majeur, il vaut mieux ne pas avoir besoin d'aller chercher son uranium ailleurs dans des conditions absolument sordides. Et ça m'amène à juste un petit mot la sortie de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'elle tient beaucoup compte des enjeux de l'élection présidentielle et du rassemblement à gauche, et c'est cela qui pêche un petit peu, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'entendre là une volonté de se placer comme celui qui ira le plus loin en matière d'écologie pour éviter que les écologistes ne continuent leur jeu qui consiste à dire nous voulons bien un rassemblement à gauche mais derrière nous.
Et on aura l'occasion évidemment d'y revenir, à suivre dans le grand face-à-face le débat avec Jean Birnbaum.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
Et un droit de suite cette semaine dans le grand face-à-face. On poursuit notre cartographie du débat public et des enjeux qui divisent le paysage intellectuel. Après Eugénie Bastier la semaine dernière, un autre regard sur ce qu'elle appelait la guerre des idées qui marque notre époque. J'ouvre les guillemets, nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir tout le temps raison. Ces mots sont d'Albert Camus, cités par Jean Birnbaum, le directeur du Monde des Livres, essayiste. Il publie Le courage de la nuance aux éditions du Seuil. Bonjour Jean Birnbaum.
Bonjour, bonjour Ali.
Et bienvenue, merci d'être au micro de France Inter. Le courage de la nuance, c'est un livre où vous faites un constat amer et qu'on peut, beaucoup d'entre nous peuvent partager. Au-delà de Twitter, de Facebook, le champ intellectuel médiatique, écrivez-vous, se confond avec le champ de bataille où tous les coups sont permis. Partout, de féroces prêcheurs préfèrent attiser les haines plutôt qu'éclairer les esprits. J'ai hâte de vous entendre échanger avec Gilles et Natacha. Mais expliquez-nous d'abord ce que ça peut vouloir dire, le courage de la nuance. Le langage courant dit plutôt le courage de ses convictions.
Oui. Ben justement, moi j'essaie de montrer que la nuance, c'est une conviction, et c'est peut-être la conviction la plus radicale, que dans le brouhaha comme ça des évidences, il n'y a pas plus radical que la nuance. Vous l'avez dit, on est nombreux à ressentir ça, on est nombreux à étouffer parmi les gens qui croient avoir raison, qui croient avoir toujours raison, comme le dit Camus. Et moi j'ai voulu écrire ce livre vraiment pour faire une sorte de câlin à tous les gens, comme vous, comme moi, comme beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, je pense, qui sont dans une sorte de fraternité souterraine. Je pense que les gens qui aujourd'hui étouffent parmi ceux qui croient avoir toujours raison se parlent peu. Pleurnichent un peu le soir dans leur lit ou en parlent avec leurs amis, mais je pense qu'il y a vraiment une fraternité souterraine de ceux qui étouffent, et j'avais envie juste de créer du lien. Et donc la conviction, pourquoi ? Parce que souvent, en fait, j'essaie de montrer dans le livre, en prenant quelques exemples, que souvent, effectivement, la lâcheté c'est plutôt l'arrogance idéologique, et le fanatisme, c'est l'impuissance. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, la nuance, une position nuancée, c'est pas une position molle, tiède, de naïf, c'est une position souvent la plus courageuse qui soit, la plus hardie qui soit, parce que vous êtes sur la corde raide, vous essayez de voir le monde tel qu'il est, dans ses contradictions, et donc vous en prenez plein la gueule de partout, mais ça veut dire donc une conviction. C'est pas l'inverse d'une conviction, c'est une conviction, c'est tout sauf mou, une position juste et nuancée.
Justement, parce que vous faites une sorte de contre-histoire intellectuelle où l'on croise Albert Camus, juste pour continuer de décrire ce livre que vous publiez, Raymond Aron plutôt que Sartre, vous dites votre admiration pour Georges Bernanos, Hannah Arendt ou Germaine Tillon, mais on a envie de vous dire que l'art de la controverse, l'art de la joute, ça existe depuis au moins aussi longtemps qu'existent les idées et les opinions, et on s'est affronté parfois brutalement et parfois même jusqu'à l'affrontement physique autour des idées, Jean Birnbaum.
Ah ouais, même
mais avant Twitter.
Mais bien avant Twitter, depuis Pétrarque, depuis toujours, de même l'humanisme était tout sauf une révolution de gala, si j'ose dire. Effectivement, vous avez raison, mais moi je dis pas du tout qu'il faut être doux ou mou, je dis juste qu'il y a une chose entre être véhément, je fais un éloge de la franchise, j'ai tout un chapitre sur la franchise, sur l'amitié, je pense qu'on peut tout à fait être véhément, on peut tout à fait même être exigeant, voire dur, voire voilà, mais on peut avoir un effet de cisaille, si j'ose dire, sur les choses, mais ça veut dire quand même écouter tous les gens que vous avez cités. C'est des gens, je veux dire, Albert Camus pouvait être très dur, Bernanos, n'en parlons même pas, c'était quand même quelqu'un, c'était
un pamphlétaire. Parce que tous ont suscité, oui, des controverses d'une intensité inouïe. Albert Camus, dont vous parliez justement, qui disait que pour sortir de la solitude, il faut parler, mais il faut parler franc. Ouais. Il a suscité des controverses très dures à propos de la guerre d'Algérie. Bernanos, on ne compte pas les polémiques autour de la religion avec l'extrême droite, les maurrassiens. Hannah Arendt, elle a déclenché la fureur avec sa notion de banalité du mal. Germaine Tillon, elle a littéralement fait la guerre au nom de ses convictions. Ce ne sont pas des penseurs nuancés.
Ce sont des penseurs qui ont su penser contre eux-mêmes, comme on dit souvent. Ce sont des gens qui, à chaque fois, ont su, soit par, dans un rapport à l'amitié, c'est très concret, ça n'a rien d'abstrait, soit un rapport à l'amitié, soit un rapport à l'humour, soit un rapport à l'inconscient, savoir qu'on n'est pas clair à soi-même, qu'il faut se méfier de soi-même, qu'on n'est pas toujours au clair avec soi-même quand on balance un truc, une vanne, une conviction, etc. C'est des gens qui, à chaque fois, à un moment donné, ont su, par exemple Bernanos, se retourner contre son propre camp. Comme vous savez, Bernanos était un militant maurassien, royaliste, Action Française. Oui. Et puis au moment de la guerre d'Espagne, il se retourne contre sa famille, tout simplement parce que dans un certain rapport à la vérité, à la sincérité, à la franchise, à une franchise hardie, comme il dit, et presque désespérée, eh bien, il se retourne contre son propre camp et il admet une certaine éthique de la vérité. Donc à un moment donné, le but n'est pas, il s'agit pas du tout de plaider pour une sorte de mollesse, de tiédeur, etc., de peut-être ben oui, peut-être ben non. Non, il s'agit de plaider pour la nuance en tant que c'est une hardiesse argumentée et une frontalité tendre, quelque part.
Natacha Polony, puis Gilles Finkelstein.
J'ai trouvé ce livre admirable parce que je m'inquiète parfois de voir que des figures comme Albert Camus, Georges Bernanos, George Orwell deviennent un petit peu, j'allais dire, presque à la mode, ce qui est assez gênant parce que ça a pour conséquence de les vider de leur substance. Et cette substance, vous la rappelez, c'est-à-dire qu'en effet, ce sont des radicaux de la nuance et du respect de l'autre. Et j'avais en tête, en vous lisant, cette phrase de Victor Hugo que j'aime énormément, qui n'est que courageux, n'a qu'une vertu, qui n'est que brave, n'a qu'un tempérament, l'obstiné dans le vrai à la grandeur. Et j'ai l'impression que ces gens que vous décrivez sont avant tout des obstinés dans le vrai, dans le sens où ce qui les intéresse davantage que leur conviction, c'est de s'approcher au plus près d'une vérité, quitte à ce que cette vérité remette en cause ce qu'ils ont défendu auparavant, ce qu'ils ont cru. Et il me semble que ce rapport à la vérité est un des éléments essentiels dans un monde, le nôtre, qui a tendance à mettre en avant non plus la vérité, c'est-à-dire finalement ce qui peut rassembler les hommes de bonne volonté, mais la subjectivité absolue, c'est-à-dire l'idée que le réel vaut moins que ce que j'ai ressenti de ce réel.
Jean Birnbaum.
Oui, c'est beau cette obstination dans le vrai et j'irai complètement dans le même sens. Et je vous remercie pour votre lecture indulgente. C'est vrai que...
plus qu'indulgente, admirative, Jean Birnbaum.
Ce rapport au vrai, il est central parce que notamment il permet de refuser une accusation à laquelle je consacre beaucoup de place et dont Orwell parlait avec des mots magnifiques, c'est l'accusation de faire le jeu de... C'est vrai qu'aujourd'hui, comme souvent dans les époques de pré-guerre civile ou de tension ou de brutalisation du débat public, il y a cette idée que beaucoup... Enfin, on sent, c'est pas une idée,
on est dans
sent.
Une période de pré-guerre civile.
Bah on sent en tout
lorsqu'on
cas.
Lorsqu'on accuse quelqu'un, par exemple, de faire le jeu du Front National ou du Rassemblement National ou de l'extrême droite, je vais vite en besogne, mais ces accusations reviennent régulièrement.
Je pense que dans tous les sens, il n'y a pas que de cette accusation-là. Je pense qu'en ce moment, on a autour de nous tout un tas de gens, et parfois nous-mêmes, qui ont un rapport à cette obstination dans le vrai dont parlait Natacha Polony, et qui, au moment d'énoncer les mots qui diraient cette vérité qu'ils ont à cœur, eh bien, ne le font pas parce que ils ont peur d'être accusés de faire le jeu d'eux. Et ça a été à toutes les époques, au moment des années 30, un jeune militant socialiste qui était antifasciste, qui militait contre le fascisme, et qui en même temps voulait maintenir une certaine espérance sociale et de justice, et donc dénonçait ce qui se passait en Union soviétique en disant c'est épouvantable, les goulags, le totalitarisme, etc. On lui disait attention, ferme ta gueule, tu es en train de faire le jeu du fascisme, de l'extrême droite, etc. Et donc à chaque période, les gens qui ont été courageux, qui ont essayé de se tenir sur la corde raide et d'échapper aux fanatiques des deux camps, c'est des gens qui tenaient à une certaine nuance et donc qui faisaient preuve d'un certain courage.
Gilles Finkelstein.
Oui, Natacha Polony qualifie votre livre d'admirable. Page 48, vous dites les auteurs des comptes rendus ont souvent renoncé à dire des choses qui fâchent, et donc vous nous mettez dans l'embarras parce que vous jetez un voile de suspicion sur les compliments qu'on pourrait vous faire.
D'un côté, c'est le chef des auteurs de comptes rendus puisqu'il dirige le monde des livres et que son métier, c'est justement de rendre compte des livres qui paraissent.
Oui, c'est ce qu'on disait pour s'en moquer de la nouvelle critique française. C'était un sujet, un verbe, un compliment.
Je ne sais pas.
Je suis embêté. Je dois dire qu'au départ, lorsque j'ai pris votre livre, je l'ai feuilleté, j'ai eu une réserve parce que je craignais le livre, l'essai qui est écrit dans l'urgence, qui est fait un peu de briquet de broc, qui reprend des articles qui ont été déjà publiés, de ces livres qui sont là, qui sont faits pour être là et pas pour être lus, comme disait Régis Debré. Et à l'arrivée, j'ai révisé mon jugement, je vous le dis. Non seulement il y a des beaux portraits, ça a été évoqué par Ali Badou à l'instant, mais vous avez fait de ce patchwork quelque chose de joliment cousu qui fait un ensemble et avec une thèse, qui est d'ailleurs tout entière contenue dans le titre, qui résonne, je crois, à nos oreilles, à celle de Natacha, à la mienne et à celle d'Ali Badou, parce que c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission, de créer un climat d'échange. La question que je voudrais vous poser, une des objections qu'on peut vous opposer, est le lien entre la nuance et l'engagement. Est-ce que la nuance ne risque pas d'être une forme de pusillanimité, d'équilibre impossible et au bout du refus de l'engagement? Vous citez dans votre livre la guerre d'Espagne. Ça veut dire quoi être nuancé face à la guerre d'Espagne? Est-ce que ça se traduit, est-ce que ça ne finit pas par interdire l'engagement? Et symétriquement, est-ce que l'engagement ne rend pas impossible la nuance, ou en tout cas ne la rend pas contre-productive? Je pense aux responsables politiques. Être toujours en train, y compris publiquement, de peser le pour et le contre d'une décision, de reconnaître ses erreurs, ce que vous considérez comme positif, de changer de position. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on peut être nuancé et engagé?
Oui, c'est une belle... Alors, il y a plusieurs questions, elles sont belles et fortes, je vous remercie à nouveau. C'est bien que vous parliez de la guerre d'Espagne pour dire est-ce que l'engagement, est-ce que la nuance peut aller avec l'engagement? Est-ce que la nuance n'exclut pas l'engagement? C'était la première partie de votre question. Moi, justement, je passe beaucoup de temps à parler de la guerre d'Espagne parce que tout un tas d'auteurs qui j'aime, parce que finalement, c'est aussi que des gens que j'aime et que je lis depuis des années, j'ai envie de partager cet amour pour ces textes, que je gribouille depuis des années. Ben, effectivement, aussi bien Albert Camus, Raymond Aron, Bernanos, Orwell, à chaque fois, c'est des gens qui ont prouvé que être nuancé pendant la guerre d'Espagne, à un moment où effectivement il fallait vraiment choisir son camp, et quiconque ne choisissait pas son camp était immédiatement accusé de faire le jeu de l'autre camp, etc. Et bien tous ils ont prouvé que le seul engagement juste, le seul engagement ferme, le seul engagement digne de ce nom quelque part, c'était un engagement nuancé. Quand vous voyez Orwell, qui, on peut pas dire qu'il s'est pas engagé. Orwell, il s'engage sur le terrain avec les en Catalogne, etc. Ce magnifique livre s'appelle Hommage à la Catalogne.
Bouleversant,
il est armé, il est engagé, on peut pas
oui,
dire.
Oui, c'est-à-dire qu'il a les armes à la main, on est très loin de la nuance, enfin, Jean Birnbaum.
Il a les armes à la main et il est nuancé. C'est-à-dire qu'il défend les républicains, il est solidaire des républicains et il passe son temps à pester. Lisez Hommage à la Catalogne, il ne supporte pas l'omerta, la violence, le silence, la propagande atroce et les crimes qui sont commis par les staliniens.
Mais il a le courage, oui, de parler justement de ces crimes-là et de découvrir, par exemple, qu'à gauche, on pouvait autant mentir que ceux qu'on combattait, à savoir les franquistes.
Exactement. Et il a des passages magnifiques là-dessus où il dit « Je croyais que la presse de droite était la seule qui censurait. » Il dit « Je vois que la presse de gauche ment autant, au moins autant. » Et lui, ce qu'il a sous les yeux, c'est la répression que les staliniens, les militants communistes, etc. exercent contre les anarchistes, les trotskistes. Donc, ce que je veux dire, c'est que la guerre d'Espagne, et Bernanos, c'est la même chose. Bernanos, il est au début en pleine sympathie avec le coup de l'autre côté, avec le coup d'État franquiste, avec les nationalistes. Son fils s'engage dans les milices, dans la phalange, etc. Et il dit formidable ce qui est en train de se passer, ce coup d'État, on va remettre de l'ordre, enfin l'Église va retrouver son pouvoir, etc. Et puis il voit ce qu'il a sous les yeux, et il parle d'un spectacle dégoûtant. Il dit mais non, moi je ne laisserai pas faire ces crimes atroces au nom de ce à quoi je tiens le plus, c'est-à-dire ma religion, le catholicisme. Et il rentre en dissidence. Et je pense qu'il n'y a pas plus grand engagement que ce moment où il se retourne contre lui-même, où il se méfie de lui-même, et donc son engagement passe par tout d'un coup, un truc qui, oui, c'est la nuance, parce qu'il voyait le monde en noir et blanc, et tout d'un coup, ça prend mille nuances, c'est compliqué, et la vraie hardiesse, c'est de se plonger dans cette complexité, sans renoncer à ses engagements.
Avant de donner la parole à Natacha, répondez quand même à Gilles, un homme politique qui pratiquerait l'art de la nuance, qui admettrait ses échecs publiquement, qui reviendrait sur ses convictions, il est garanti de perdre toute élection.
Bah, je suis pas sûr.
Non, mais je l'ai dit en souriant, j'en
suis pas
bon,
sûr.
Mais
non, je suis pas sûr. Faudrait qu'ils essayent. Après tout, Macron, au départ, a misé sur ce fameux en même temps, qu'on peut voir à nouveau comme un peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais en fait, ce en même temps, aujourd'hui même, regarde comme
c'était
il brouille
un
les pistes.
De la nuance.
Ah, je sais pas si c'est un ordre de nuance, en tout cas, dire en même temps, c'est tenir sur les contradictions. On doit pouvoir dire deux choses en même temps. Moi-même, dans mes précédents bouquins, sur la question de la gauche, de la religion, de
l'islamo-gauchisme, par exemple,
j'ai essayé de dire en même temps, on doit pouvoir dire en même temps qu'il ne faut jamais confondre l'islam avec l'islamisme, l'islam comme trésor spirituel et l'islamisme comme dogme, etc., ou le djihadisme comme violence sanglante.
Mais vous
et en
tapez
même temps,
sur l'islamo-gauchisme, malgré tout, à coup de marteau.
Et en même temps, on ne doit pas faire comme si le djihadisme n'avait rien à voir avec l'islam. Ce en même temps, il vous fout tout le monde à dos, mais c'est sans doute la seule position tenable si vous voulez construire quelque chose d'efficace. La question n'est pas d'être un truc de doux rêveur, c'est d'avoir une position juste, ferme et donc efficace.
Justement, Natacha Polony.
Oui, je pense d'abord qu'il est absolument nécessaire de revenir sur la guerre d'Espagne, qui est un moment majeur et un peu trop mis de côté de l'histoire du XXe siècle, ne serait-ce que parce que c'est une guerre civile, une guerre du ressentiment, et que c'est quelque chose que nous devons absolument regarder en face. Et vous rappelez cette anecdote de George Orwell, justement prêt à tirer sur un homme, et il ne tire pas parce que cet homme est en train de tenir son pantalon un peu maladroitement, et il y a là toute l'humanité d'un homme comme George Orwell, qui justement reconnaît l'humanité en l'autre. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'au fond, vous fondez votre raisonnement sur la capacité à comprendre l'humanité dans sa complexité. C'est pour ça que vous interposez entre ces portraits des interludes dans lesquels vous évoquez la question de la langue, du langage, de la capacité à ne pas vider les mots de leur substance, le rôle de l'humour, la question du désir qui est essentiel, et vous avez cette phrase qui me semble fondamentale, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes, quelque chose que notre époque contemporaine est en train d'oublier sur la question justement du désir, des rapports entre individus, de toutes les formes de rapports, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes, et le rôle notamment de la psychanalyse, vous le rappelez, c'est justement de nous rappeler cela, de nous permettre de comprendre que l'être humain peut être sombre, noir. Et la question de la littérature, enfin, que vous évoquez également, et qui est l'entrée dans la complexité humaine. Cette question-là me semble d'autant plus essentielle que j'ai l'impression que c'est cela qui disparaît. La psychanalyse a été attaquée par le comportementalisme, enfin les thérapies cognitivistes. La littérature, dans ce qu'elle a justement de capacité à dire la noirceur, est peu à peu attaquée par tous ceux qui voudraient qu'elle soit un ordre moral. Et vous avez donc cette capacité à rappeler cette essence. Non, l'être humain ne sait pas ce que sont ses désirs.
Jean-Bien Beau, mais ensuite j'apporterai un peu de dissensus parce qu'on ne va pas rester dans le compliment. L'art de la nuance, c'est justement pour éviter la conflictualité. Ben, je vais en apporter dans ce
très
débat.
Très bien, bienvenue, avec plaisir. Non, mais que répondre, c'est
oui,
très,
il n'y a pas
beau
de question.
Si, bon. Non, mais si, je voudrais juste apporter quelque chose. C'est qu'effectivement, je suis très heureux que Natacha Ponit est sensible à ça parce que ça implique quelque chose. C'est que ça n'est l'art de ce courage de la nuance, cet éloge de la nuance, ça n'est pas justement quelque chose qui se place sur le terrain des idées ou de l'abstraction ou de la théorie. C'est juste ça, c'est que effectivement inscrire la chose, dès qu'on dit oui, il faut être nuancé, non seulement on dit c'est l'impuissance, c'est la tiédeur, mais aussi on a l'impression que c'est un truc prise de tête, relou, un télo, etc. En fait, non, j'essaie de montrer effectivement que tous les gens dont je parle dans le livre, qui ont eu affaire à des choix cruciaux, hyper violents, etc., donc Raymond Aron, Barthes, dont on a parlé, etc., enfin, et la guerre d'Espagne entre autres, et pas seulement, à chaque fois, leur art de la nuance, leur courage, ce qui fait qu'ils se sont tenus sur la corde raide, c'est complètement ancré, c'est pas abstrait, c'est pas théorique, c'est pas politique, c'est ancré dans un certain rapport à l'amitié, dans leur expérience vécue, dans la pauvreté, dans le rapport à la maladie, à la tuberculose pour Camus ou pour Roland Barthes.
Oui, mais vous ne voulez pas d'un monde en noir et blanc, Jean-Bien Beaume, pardon de vous interrompre,
allez-y.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi se débarrasser de la notion de bien et de mal, de juste et d'injuste? Parce que toutes les personnes que vous citez dans votre livre se sont confrontées à cette question et toutes ont pris position. Il y avait pour eux le bien et le mal. Il y avait, pour ces auteurs que vous citez, le juste et l'injuste.
Oui.
Au bout du chemin, on choisit, il n'y a plus ce sens de la nuance, mais qui serait responsable de cette perte de la nuance aujourd'hui?
Mais alors voilà, là il y a un malentendu, c'est que moi je pense pas du tout, au contraire, vous avez raison, c'est très beau que vous insistiez là-dessus, parce que la question du mal, aujourd'hui, personne ne la pose. La question du mal. La question du mal comme puissance métaphysique. La question du mal.
On est en train de commémorer les 10 ans de la guerre en Syrie. On parle justement de la question du mal. Allumé France Inter.
C'est la question de l'horreur. La question du mal en tant que cruauté. Je cite un passage de Bernanos, à nouveau, excusez-moi, où à un moment donné, il décrit ce qu'il a sous les yeux, la violence, la cruauté, des scènes obscènes de violence, justement. Et tout d'un coup, il prend conscience de cette chose. Ça rejoint ce que disait Natacha Polony. Il se dit, mais est-ce que là, je suis en train d'essayer de décrire les choses pour susciter l'indignation de mes lecteurs, est-ce que je ne suis pas en fait en train de les faire jouir? Et là, cette phrase, il dit « Retirez les mains de vos poches, mes enfants. Retirez les mains de vos poches, mes enfants. » Parce que Bernanos était hyper conscient de cette question du mal. C'est un chrétien, profondément chrétien. Donc pour lui, le mal, c'est très, très, très... Ça existe vraiment de façon tangible. Ce n'est pas une notion abstraite comme ça, le mal, le bien. Donc oui, moi, je ne suis pas du tout... Je pense que c'est bien que vous en parliez. C'est bien de parler du mal. Et c'est très bien moi, je ne considère pas du tout qu'il faut renoncer à toutes ces notions pour être nuancé. Pas du tout. C'est justement parce que vous tenez bon sur vos convictions qu'à un moment donné, en prêtant l'oreille à ce que disent les autres, y compris les adversaires, voire l'ennemi, Camus dit, voilà, les deux reproches que je fais aux intellectuels, c'est de mettre entre la vie et l'homme un volume du Capital, un volume de Karl Marx, et aussi de ne jamais pouvoir admettre que l'autre, que l'adversaire, voire l'ennemi, peut parfois avoir raison. Il faut tenir bon sur ses convictions, sur sa notion du bien, du mal et du reste, mais simplement aussi savoir, comme on le disait, qu'on n'est pas clair à soi-même, que la franchise, l'amitié, le rire, voilà, mettre du jeu et de la nuance, c'est-à-dire effectivement le monde n'est pas en noir et blanc, et il faut arriver à avoir, à mettre des couleurs et de la conviction.
Gilles Finkelstein.
Oui, alors non pas une opposition, mais une vraie interrogation. Dans le premier interlude que citait tout à l'heure Natacha Polony, vous écrivez « La nuance pour exister a besoin d'une langue libre ». C'est quoi les mots d'une langue libre ? Quand on a les mots anciens qui sont de plus en plus subvertis, on voit notamment la manière dont l'extrême droite se saisit pour les subvertir du mot de république ou du mot de laïcité. Et quand les mots nouveaux, je pense à, aux mots qui sont utilisés par une partie de l'extrême gauche, sont entourés d'une gangue idéologique qui les rendent incompréhensibles, c'est quoi les mots d'une langue libre et c'est quoi les mots de la nuance ?
C'est très difficile, c'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, c'est un point qui m'est très, qui me tient beaucoup à cœur, aussi bien pour Orwell et la question de la novlangue, voilà, dans 1984, que pour Bernanos qui dit nous referons des mots libres pour des hommes libres.
Mais revenons en 2021, voilà. Parce que voilà. Moi j'aimerais qu'on parle de l'islamo-gauchisme, de la pensée décoloniale.
Allons-y. Mais la question est, ne parlait pas d'islamo-gauchisme.
Mais revenons en 2021 parce que ces mots-là, bon, ils ont une origine. Alors, ces débats-là, ils ont une origine.
Alors,
mais
c'était cette question-là que vous posiez, l'islamo-gauchisme ?
Non, c'était, enfin, c'est quoi les mots d'une langue libre et les mots de la nuance aujourd'hui ? Quels sont les mots qu'on peut, que vous considérez comme ceux qui peuvent être utilisés dans ce registre-là ?
Ah, mais moi je ne fais pas du tout un lexique des mots qui sont encore propres ou qui ne seraient pas encore galvaudés, pas du tout. Je pense que dans chaque discussion, et on pourra prendre une discussion concrète comme Ali Badou nous y invite, dans chaque discussion, on voit bien quand les mots sont encore assez proches, mais chaque époque, dans toutes les époques, là pour le coup, les intellectuels et tout le monde considéraient que les mots avaient été vidés de leur sens. Donc ça, c'était pas un problème. Mais dans les moments de crispation particulière et de brutalisation du débat public, là, oui, on souffre d'autant plus de voir les mots se vider de leur sens. Donc prenons des exemples, si vous voulez.
Exemple, islamophobie.
Alors, l'islamophobie, est-ce que c'est un mot galvaudé ? C'est complètement autre chose.
Non, est-ce que c'est un mot qui a un sens pour vous ? Est-ce que c'est un mot, par exemple, qui correspond à une réalité ou qui permet de désigner quelque chose vous pourriez discuter ?
J'aurais une position nuancée. Je pense que un mot qui essaie de désigner la détestation, la peur, mais aussi la détestation, voire la haine que subissent les musulmans et qui désigne le fait qu'aujourd'hui, être un jeune musulman ou une jeune musulmane ou un musulman en France, par exemple, c'est pas facile tous les jours, que c'est dur et qu'il y a effectivement parfois un racisme qui se masque sous les dehors de la détestation ou de la critique de l'islam, c'est un truc que j'admettrais totalement. Après, que l'islamophobie, à nouveau position nuancée, désolé, c'est le en même temps, que l'islamophobie soit aujourd'hui utilisée comme un mot par tout un tas de gens idéologiquement proches, etc., comme un mot qui permet de fermer la bouche et d'empêcher quiconque émet une critique de l'islam de s'exprimer, c'est un fait aussi. Moi aujourd'hui, si vous voulez, j'ai bien connu Mohamed Harkoun, qui était donc un grand islamologue. Si vous lisez ce que disait
du Coran.
Si vous lisez ce que disait Mohamed Harkoun de l'islam et de la situation de l'islam, eh bien, il serait traité d'islamophobe par la plupart des gens qui agitent le mot d'islamophobie aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ça c'est ma position. La position juste, c'est de soutenir tous les musulmans et toutes les musulmanes et toutes les musulmanes qui sont soit simples croyants, soit théologiens, etc., qui savent très bien qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une espèce de guerre civile mondiale qui ravage l'islam de l'intérieur, qu'on la voit tous les jours, et qui essayent de soustraire leur foi aux fanatiques. Si ceux-là, on les traite d'islamophobes, si ceux qui désignent, quand vous voyez que Rachid Benzine, au lendemain des attentats,
autre spécialiste de
Rachid
l'islam.
Benzine, et élève de Mohamed Harkoun, disait, il faut arrêter de dire que ce qui se passe n'a rien à voir avec l'islam. En fait, ce qui se passe, c'est plus proche du curseur global, enfin, du juste milieu de l'islam, enfin, de ce qui se passe en islam. Aujourd'hui, comment dire, il disait, très violemment dans Libération, il disait, arrêtez de dire que ça n'a rien à voir, les gens de l'État islamique représente quelque chose de l'islam beaucoup plus fortement que l'islam des Lumières, donc que nous appelons de nos vœux, etc. C'est-à-dire qu'il disait qu'il y a un énorme problème interne à l'islam, et il y a des problèmes dans plein de religions. Mais masquer ça et dire que quand on prononce cette phrase comme Rachid Benzine ou Mohamed Harkoun, on tombe dans l'islamophobie, eh ben, je pense que là, c'est à nouveau ce que Orwell appelait cette manigance idéologique qui est là pour intimider et pour empêcher de s'exprimer des opinions divergentes.
Natacha Polony.
Je pense qu'il y a aujourd'hui, nous le voyons, un attrait pour, de la part de beaucoup de jeunes gens, pour des idéologies qui sont des idéologies non seulement radicales, mais extrêmes. Et que cette énergie qui se met là-dedans est dans un certain sens la même qui, notamment pendant la guerre d'Espagne, a pu inciter beaucoup de jeunes gens à s'engager d'un côté ou de l'autre. Vous citez à un moment Bernanos et cette phrase « Hélas, je sais pourtant mieux que personne ce qu'un garçon de 20 ans peut donner de lui, de la substance de son âme à ces grossières créations de l'esprit partisan qui ressemblent à une véritable opinion comme certaines poches marines à un animal, une ventouse pour sucer, une autre pour évacuer, etc. » L'image de la ventouse que vous, d'ailleurs, ouais. dont vous rappelez qu'elle est reprise par Roland Barthes, ouais. c'est-à-dire cette chose qui colle, ça m'a fait penser à la phrase d'Alain, il n'y a que les moules et les imbéciles qui adhèrent, mais ce besoin justement, il y a un besoin d'adhésion chez l'être humain, et en particulier dans la jeunesse, où on a besoin d'une cause et d'une cause qui nous remplit. Donc comment on fait pour que cette jeunesse se sente remplie par une cause qui ne soit pas celle de la radicalité brutale, mais celle au contraire de l'art d'entendre l'autre et de l'art du dialogue, de la nuance.
Il nous reste 5 minutes. Vous êtes un spécialiste de la radio, Jean Birnbaum. Vous y avez longtemps travaillé, notamment à France Culture. Réponse courte, intervention courte de Gilles et Natacha.
Je ne sais pas. Voilà ma réponse. Je ne sais pas comment on fait. Je pense juste qu'il y a des moments plus ou moins propices. Moi, j'ai connu moi-même des moments où je voyais on peut être, Orwell était très engagé, comme je le répète, je le répète.
Mais alors, revenons en 2021. Qui est responsable de l'État aujourd'hui de cette perte de la nuance, en l'occurrence? Est-ce que c'est la gauche, par exemple, comme le pensent, des penseurs que vous avez même affrontés, encore très récemment, comme Eugénie Bastier?
Ou pas. Non, je pense que c'est beaucoup plus global. Je pense pas, parce que je pense que c'est pas national ni local. Si vous voulez, moi je pense que aujourd'hui on sent tous qu'il y a quelque chose de dur qui est en train de s'installer. À nouveau, pour citer Bernanos, il disait notre monde est mûr pour toutes sortes de cruautés. Vous avez parlé de la Syrie, on parle du mal pour la Syrie. Ben, comment on fait même pour vivre tous les jours, pour se lever, etc. Alors avec ce qui s'est passé en Syrie, c'est incroyable en fait. Vous pensez, lisez le bouquin de Jean Hatzfeld sur le Rwanda. Bon, donc on voit bien que le monde se remplit. Il y a des gens un peu durs partout, Erdogan, Poutine, etc. Bon, ça se durcit, c'est de plus en plus violent. On sent que quelque chose de pas facile et de pas très rigolo nous attend. Et je pense que ça pèse beaucoup. Que beaucoup de gens qui avant seraient rentrés en dissidence, auraient voulu avoir une discussion frontale, etc., sont de plus en plus dans une ambiance un peu justement de pré-guerre civile. Ils se disent, je vais compter mes troupes et je vais pas me fâcher avec trop de monde. Et donc de plus en plus, on a cette ambiance où chacun et chacune choisit un ennemi principal. On voit ça sur les réseaux sociaux, mais ailleurs aussi, chacun choisit son petit ennemi principal et noue ensuite plein d'alliances secondaires avec d'autres gens, quitte à fermer sa gueule sur des choses auxquelles on croit intimement. Alors après, d'autres vérités peuvent se dire dans les cercles privés, dans les correspondances. Moi, je m'engueule avec plein de copains en ce moment, par mail, par texto, mais je leur dis, mais pourquoi tu le dis pas quand t'es à la radio? Pourquoi tu le dis pas quand t'es devant tes étudiants? Pourquoi tu le dis pas? Ah non, on veut pas faire le jeu d'eux, ils se préparent des choses très dures. Voilà, soyons prudents.
Gilles.
Alors, précisément sur ces obstacles à la nuance, vous venez de citer les réseaux sociaux, vous en faites une lecture d'un mot qui est une lecture critique en expliquant dès le début que c'est devenu une arène où le débat est remplacé par le combat. Vous en faites d'ailleurs maintenant une pratique plus apaisée. Ma question est, quelle place leur accorder ? Est-ce qu'on ne leur accorde pas une place excessive compte tenu de la réalité du nombre de personnes qui sont réelles, qui sont sur Twitter? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une hypertrophie de la place des réseaux sociaux par rapport à la réalité de leur poids? Et quelle responsabilité leur attribuer dans cette dégradation du climat que vous évoquez? Est-ce qu'ils en sont la cause, parce que le format des réseaux sociaux ne prête pas à la nuance, parce que la culture des réseaux sociaux prête plutôt à l'affrontement, ou est-ce qu'ils sont plutôt la conséquence d'un problème qui est un problème plus vaste?
Jean Birnbaum.
Moi, je serais plutôt sur la deuxième option. Moi, je me suis inscrit sur Twitter il y a quelques années, à l'invitation d'une consoeur, Isabelle Régnier, qui travaillait au cinéma, pour les pages cinéma du Monde à l'époque.
Merci les amis.
Merci, voilà. Et je veux dire, à l'époque, il y avait quand même il se passait des choses. Il y avait une voix se frayait parfois un chemin vers une autre voix. Il y avait une sincérité possible. Moi, je me faisais bousculer parfois par quelqu'un qui me disait, je suis pas d'accord avec vous, etc. Parfois, les gens n'étaient pas toujours là où on les attendait. Et il y avait des petits événements, des petits miracles. Aujourd'hui, ça tient de plus en plus du miracle. Et je tweete de moins en moins parce qu'effectivement, c'est devenu une sorte de théâtre d'ombre où la mauvaise foi répond à la mauvaise foi et où partout, même la haine se répercute et où on chasse en meute. Et quand on chasse en meute, on se prépare à un monde sauvage. Donc, je pense que c'est plutôt le miroir. Ça a été quand même aussi un accélérateur. Mais moi, je l'ai vu parallèlement on dit toujours, voilà, les gens font comme si les réseaux sociaux c'était virtuel. Moi, je l'ai senti. La cause de l'écriture de ce livre, le motif, c'est que physiquement, j'ai senti qu'on étouffait parmi
quelque
les gens.
Quelque chose comme de l'oppression, un vrai sentiment d'oppression.
Voilà, un vrai sentiment d'oppression, mais dans la vraie vie, parce que c'est en faisant mes...
Eh ben, vous êtes dans la vraie vie, en l'occurrence, indépendamment du monde virtuel, vous êtes à la tête d'un journal qui existe encore sous format papier qu'on peut tenir entre ses mains. Ouais. Vous dirigez le monde des livres et plus généralement, vous travaillez pour Le Monde. Quelqu'un comme Alain Finkielkraut qui vous dit « Où est le sens de la nuance ?» Vous êtes un journal qui désigne publiquement des ennemis, qui jette l'anathème, qui est dans la confrontation. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Ah ben je réponds assez facilement parce que franchement la force du journal, la force du Monde depuis très longtemps, c'est depuis toujours même, c'est de se prendre tout le monde dans la gueule. C'est que quelle que soit la question que vous prenez, une question géopolitique, une question sociale, etc., le mariage pour tous ou le conflit israélo-palestinien, tout ce que vous voulez, à chaque fois, il est assez facile d'identifier deux camps en présence, et vous allez avoir les extrémistes ou les gens les plus durs de chaque camp qui vont dire à chaque fois que Le Monde fait le jeu de l'autre camp, toujours, quel que soit le domaine. Et je pense que ça c'est un bon critère. Ça peut valoir pour vous, pour chaque individualité. Demandez-vous, à chaque fois, quand vous prenez position, si tout le monde...
Mais quand il vous reproche, Alain Finkielkraut, de dresser des listes de gens à abattre.
Mais je
Pour le dire aussi simplement, prendre ses mots.
Vous faites un merveilleux porte-parole d'Alain Finkielkraut, mais en fait,
je ne fais que relayer ses propos.
Oui, mais en fait, je lui répondrais, donnez-moi la liste des listes. Faites-moi la liste des listes de gens à battre que nous faisons. On ne fait pas du tout de liste de gens à battre. Et moi-même, je suis entouré de gens très différents dans la vraie vie, comme vous l'avez dit. Ça me fait beaucoup rigoler parce que souvent, mes copains me disent, mais vous défendez tel camp et les autres disent, vous défendez tel autre. Parce que on est quand même dans un vrai pluralisme. Y compris dans la rédaction, les gens sont souvent pas du tout d'accord sur plein de sujets. Donc je pense que là-dessus, c'est assez facile de répondre. On a cette chance d'avoir des journalistes en CDI, qui sont donc pas précaires et qui peuvent dire les choses auxquelles ils croient et auxquelles ils pensent et qui font vivre un pluralisme presque physiquement parce qu'ils sont traversés par les débats de la société et aussi on est tous mus par... c'est un effort de tous les instants, la nuance. Bien sûr qu'on est tous... Je m'exclus pas du lot, il m'arrive de pas du tout être nuancé. Peut-être que je l'ai pas été assez d'ailleurs aujourd'hui.
Mais vous l'étiez.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous traversés par ça, au monde comme ailleurs, mais chez nous, il y a comme une tradition de débat et en interne et à l'extérieur qui nous protège quand même, je pense, un minimum, mais il faudrait prendre des cas concrets et des exemples concrets d'un quelque chose qui serait en noir et blanc, justement.
Malheureusement, l'émission se termine, mais la révolution, c'est fini. Le grand soir, on n'y croit plus.
En tout cas, on croit au grand face-à-face. Est-ce que je peux citer juste ça? Le grand face-à-face.
Mais alors, maintenant, il reste 20 secondes.
On est foutu. Mais en tout cas, Albert Camus.
Non, prenez-les.
Albert Camus dit que je suis pensé à ça parce que chez Albert Camus, il y a une philosophie de la rencontre qui est vraiment une éthique de la face, en tout cas du visage. Et chez lui, il y a vraiment cette idée-là. Quel est le mécanisme de la polémique? Elle consiste à considérer l'adversaire en ennemi, à le simplifier par conséquent et à refuser de le voir. Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière. Devenu aux trois quarts aveugle par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi des hommes, mais dans un monde de silhouettes. Voilà, le grand face-à-face, c'est lutter contre ce monde, ce théâtre d'ombre qu'est Twitter, mais pas seulement Twitter.
Le grand face-à-face, c'est ici, tous les samedis. Et Natacha avait raison, le livre est passionnant. Merci à Jean Birnbaum d'être venu nous rendre visite. Le Courage de la Nuance est publié aux éditions du Seuil. Natacha Gilles, rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt, Marie Mériel à la réalisation, à la technique, Selim Guéribi. À suivre le journal.